Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mathieu Bock-Côté.
Il représente un segment très important de l'opinion publique.
Richard Martineau.
Tu vis sur quelle planète?
La Rencontre.
Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie.
C'est hallucinant.
La Rencontre. Bock-Côté. Martineau.
Alors, Mathieu, un vieux débat refait surface en France sur le burkini. Qu'est-ce qui se passe?
En fait, ça nous vient d'Éric Piolle, qui est le maire de Grenoble, qui est un écologiste, mais comme tous les écologistes, il se passionne davantage pour le multiculturalisme que pour l'écologie. Et Éric Piolle, donc, a fait un règlement dans sa municipalité qui était approuvé, qui permet désormais le burkini, notamment dans des piscines municipales. Le débat est vite devenu national, parce que c'est la question du burkini, ce n'est qu'une nouvelle manière de poser la question du rapport au voile islamique dans la cité. Mm-hmm. Et là, ce que plusieurs disent, c'est que le burkini, ce n'est pas un symbole comme les autres, c'est un symbole qui a pour vocation de visibiliser les courants les plus intégristes de l'islam dans l'espace public. C'est une déclaration de non-appartenance explicite. C'est un symbole d'occupation de l'espace public. Et à terme, là où le burkini s'impose, eh bien, le burkini fait la loi. Ce n'est pas qu'une nuance parmi d'autres d'identité dans l'espace public. Éric Piolle nous dit que le burkini, c'est un progrès social. L'autorisation du burkini, c'est un progrès social parce que ça permet aux femmes de se vêtir comme elles le souhaitent sans subir les codes du patriarcat qui leur dirait comment s'habiller.
Ben, voyons.
Donc ça, c'est assez génial. On retourne l'argument du patriarcat contre ceux qui veulent lutter contre le burkini. C'est au nom de la lutte contre le patriarcat qu'il faut défendre le voile, qu'il faudra défendre le voile intégral, qu'il faudra défendre le burkini.
Ben voyons.
Et ceux qui... Ben mais c'est le propre du retournement des arguments. Et c'est ce qu'avait dit, soit dit en passant, on n'est pas étranger à ça au Canada. Rappelle-toi, Zunera Ishak, cette dame qui s'est rendue jusqu'au devant les tribunaux pour prêter son serment de citoyenneté en niqab, sans même en retirer un instant son niqab pour faire un petit sourire au pays qui l'accueille. Les ministres du cabinet fédéral, Trudeau évidemment, disaient « Cette femme est exemplaire parce qu'elle représente une double émancipation. » Une émancipation multiculturelle, donc comme ça, c'est-à-dire les minorités n'ont pas à se soumettre à la majorité, mais une émancipation féministe, parce que c'est la possibilité pour les femmes de s'habiller comme elles le souhaitent, quoi qu'en pensent les hommes. Donc, c'est le même logiciel, le même argumentaire qui s'impose. Ce n'est pas très surprenant, mais on voit qu'en France, ça progresse. La France résiste, mais ça progresse quand même en France.
Mais écoute, les woke et les tenants de cette idéologie-là sont des maîtres du judo, vraiment, parce qu'ils prennent les arguments de leurs ennemis pour mieux les envoyer au tapis. C'est ça le judo,
oui,
là.
En fait, on est vraiment là-dessus devant une pure manipulation. C'est-à-dire que à l'origine de tout cela, il y a la négation du sens des mots. Je pense, ou même l'inversion du sens des mots. Les mots n'ont plus de référent objectif. Les mots sont de simples armes auxquelles on prêterait la définition que l'on souhaite selon nos objectifs politiques. Donc, on va nous expliquer, par exemple, que le racisme ne peut pas être anti-blanc, parce que le racisme serait, c'est plus ce qu'on appelait autrefois, je sais pas, une idéologie qui veut hiérarchiser ce qu'on appelle les races, qui entend discriminer les unes contre les autres. Tout ça, non, c'est pas possible, parce que le racisme, ce serait la structure de pouvoir institutionnaliser, ou implicite institutionnaliser tout à la fois dans la civilisation occidentale. Donc, le raciste serait nécessairement blanc, et le blanc serait nécessairement raciste. C'est Urbain D'Angelo. Donc là, on redéfinit complètement le racisme pour en arriver à la conclusion que le racisme anti-blanc n'existe pas. Et on l'a vu avec Guy Nantel, qui, quand lorsqu'il a dénoncé la discrimination positive, version genre, il n'y a pas de blancs qui peuvent accéder à certains postes, eh bien, on a vu des individus, appelons ça intellectuellement peu stimulants dans certains journaux, nous expliquer avec une espèce de morgue qui était équivalente à leur bêtise, que ce n'était d'aucune manière discriminatoire, que c'était une manière simplement d'ajouter du monde à la table. Donc, il joue avec les mots, il joue avec les concepts, il joue avec le sens des termes, puis toujours avec cette idée de restreindre l'espace du pensable et de manipuler l'univers symbolique dans lequel on évolue.
Mais est-ce que ces gens-là, ils voient ce qui se passe en Afghanistan? Les talibans sont de retour. La première chose qu'ils ont fait, ils ont obligé les présentatrices télé à porter une burqa. Est-ce qu'ils le voient, ça?
Alors, ils vont nous dire, en Afghanistan, on oblige les femmes à porter le niqab ou la burqa. Eh bien, ici, on les oblige à pas la porter. C'est l'équivalent. Donc, tu vois,
c'est absurde.
Mais c'est pour ça que quand on débat avec ces gens, avec cette mouvance-là, il faut savoir avec quoi nous débattons. C'est-à-dire, nous débattons avec des gens qui, fondamentalement, n'ont pas le souci de clarifier les arguments. Leur objectif, généralement, c'est de bannir le plus rapidement possible de la vie publique ceux qui ne pensent pas comme eux. Et comment ils font ça? En redéfinissant, on en parle souvent ici, des concepts comme racisme, extrême droite, intolérance, phobie, haine, pour faire de leur adversaire des gens qui sont polyétiquetés de tous ces concepts. Puis dès lors, ben, c'est foutu, parce que si vous êtes tout ça, on parlera pas avec vous, on va mettre les gens en garde contre le danger que vous représentez. Et de ce point de vue, il n'y a pas vraiment de débat possible avec ça. Donc moi, le seul débat possible, en fait, c'est aller dans l'espace public, puis expliquer ce qui se passe, décrire ce qui se passe, décrypter ce qui se passe, et puis on verra bien ce que ça donnera comme résultat. Mais non, c'est assez... Éric Piolle, de ce point de vue, représente bien l'avenir de cette gauche woke en France, qui, soit dit en passant, trouve un véritable écho dans la nouvelle coalition, la NUP, la coalition de gauche autour de Jean-Luc Mélenchon.
Mais débattre avec ces gens-là, ça sert à rien, parce que soit ils gagnent, soit tu perds. De toute façon, ils veulent gagner à tous les coups, même s'ils sont de mauvaise foi. Et là, un autre débat, moi j'ai lu des trucs incroyables sur le nouveau ministre de l'Éducation qui a été nommé, paraît-il que c'est un woke de chez woke.
Ouais, alors c'est Pape Ndiaye qui est un historien, universitaire correct, là, qualifié, mais c'est un universitaire qui, comme bien les universitaires, a un lourd bagage d'opinion qu'il présente comme des options scientifiques. Je donne quelques exemples. Pape Ndiaye considère qu'il y a un racisme structurel en France. Pape Ndiaye considère qu'on doit penser la question des minorités issues de l'immigration en France à la lumière de la question noire américaine.
Oh.
La différence structurelle qu'il y a entre la minorité noire américaine, c'est-à-dire globalement une population qui était amenée de force dans un pays pour ensuite se faire reprocher d'y être, c'est quand même ça, là. C'est le drame de la question noire américaine, c'est la tâche indélébile dans l'histoire américaine. Et de l'autre côté, en Europe, et en France en particulier, des populations issues de l'immigration qui ont librement choisi de s'y installer et qui, dès lors, on peut supposer, acceptent le pays où elles s'installent. C'est pas la même chose, je crois. Mais lui, il pense pas à la lumière de l'autre. On est devant quelqu'un qui conteste, notamment, justement, le concept de racisme anti-blanc. On est devant quelqu'un qui a fondé, à partir de la fondation du CRAN, le collectif représentatif. Je le dis de manière inexacte, mais en gros, le collectif de représentation des associations noires en France. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que la France, qui est un pays qui refuse de se définir en termes raciaux, la France se définit par la langue, par la culture, par la citoyenneté, mais pas par la race, pas les États-Unis. Eh bien, lui fait partie de ceux qui ont milité ardemment pour l'institutionnalisation d'un point de vue racial, d'une prise de parole raciale dans la vie publique. Quand il a fait un rapport pour l'Opéra de Paris, il y a peut-être 2 ans, pour avoir une plus grande diversité à l'Opéra de Paris, il a légitimé implicitement la censure de certaines œuvres, le fait qu'on devait avoir que l'Opéra de Paris devait se lancer à la recherche à travers le monde d'artistes non blancs, c'était la formule utilisée, pour diversifier la représentation sur scène. Donc, moi, je pensais qu'on cherchait juste les meilleurs, qu'ils soient blancs, noirs ou mauves, ou ainsi de suite. Non, pour lui, c'était important. On est devant quelqu'un qui légitimait aussi le fait que certaines œuvres devaient peut-être plus ou moins représenter parce qu'il y avait trop de représentations d'œuvres venant de blancs, entre guillemets. Donc, et là, ce qui est fascinant, c'est que le système médiatique français cherche à occulter, neutraliser, relativiser ses prises de position et en vient même à dire que parce que Pape Ndiaye, qui est noir par ailleurs, est noir, et on dit toutes ces critiques-là, c'est parce qu'il est noir, en fait, c'est du racisme.
Bon,
là,
ça y est.
On va vous répondre, Ben. Et là, on dit non, c'est pas parce qu'il est noir, il serait blanc, il serait la même affaire, on aurait les mêmes critiques. Mais c'est présent, ce que l'on fait, ce qu'on dit sur les critiques qui viennent de l'extrême droite, hein, comme d'habitude, et ce sont des critiques qui sont celles de gens qui sont racistes. Donc on cherche encore une fois à tuer la possibilité du débat en l'assimilant au racisme. C'est assez fascinant.
Mais ce qui est assez inquiétant, c'est que là, il est ministre de l'Éducation, donc il va
oui,
pouvoir...
Il remplace surtout Jean-Michel Blanquer, hein, ça c'est important. Je te le donne à la Québécoise. Là. Quand Papendiaï remplace Jean-Michel Blanquer, c'est comme si à la place de Simon-Jolin Barrette, on allait mettre Don McPherson comme ministre de langue française au Québec. Ça témoignerait d'un changement de ligne idéologique. Bon, et de ce point de vue, eh bien, c'est comme si Emmanuel Macron avait, pendant 5 ans, utilisé Blanquer, qui avait mené le combat contre le wokisme, d'ailleurs, qui avait signé une lettre avec Jean-François Robert, sur la nécessaire résistance au wokisme, qui était un Blanquer qui représentait ce qu'on pourrait appeler le corps républicain dans le bon sens du terme, la ferme en France, lutte contre le wokisme, lutte contre le racialisme, et ainsi de suite, contre l'islamo-gauchisme. Eh bien, finalement, la page Blanquer est tournée. Et désormais, on prend l'anti-Blanquer comme ministre. On peut y voir une stratégie d'Emmanuel Macron, on peut y voir aussi un dévoilement de ses positions les plus profondes.
Mais en tout cas, pour les woke, c'est une grande journée parce qu'ils ont maintenant, ils ont infiltré le gouvernement Macron et ils ont quelqu'un qui va pouvoir changer les programmes dans les écoles.
Ben, on peut pas dire que les programmes étaient déjà assez altérés. Il faut bien dire, la vérité, c'est que c'était... Quand on regarde les programmes scolaires, là-bas comme ici, enfin je dirais là-bas comme au Québec, ils sont déjà très idéologisés. Mais là, ce qu'on a, c'est qu'on a une figure qui marque symboliquement le fait qu'on assume cette rupture-là avec une certaine conception de la laïcité, de l'identité française. C'est une nomination qui fait beaucoup parler d'ailleurs. J'ai consacré 3 éditos ici, je vais en faire quelques-uns au fil du temps, j'en suis certain. Et là, la question, c'est de savoir comment lui-même va réagir devant tout cela. Parce que la critique est sévère. Est-ce qu'il va se victimiser ou est-ce qu'il va répondre aux arguments qui sont avancés? Il a déjà participé, soit ne pas fort, des réunions non mixtes. Des réunions non mixtes, c'est-à-dire des réunions d'où les Blancs sont interdits. Ensuite, il a dit que c'était pas idéal, ce type d'association-là, mais il a accepté d'y participer. Imagine si un intellectuel X, Y ou Z participait à une réunion où seuls les Blancs sont autorisés. Tu crois qu'il serait nommé ministre le lendemain? Alors, on est dans cette logique-là. C'est un peu triste, en fait, mais ça marque le quinquennat qui commence.
Nous vivons une époque extraordinaire. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain.
Bonne journée. Bye bye.